Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria, en direct du Forum de l'aménagement sur le stand de l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. Et j'ai le plaisir de commencer cette seconde journée avec François Riesec. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, très bien. C'est un plaisir de se revoir dans ce cadre si actif.
Eh bien oui, hier c'était une très bonne journée, très belle journée. Aujourd'hui, pareil, le programme est très, 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 très important. Alors, avec vous, Dominique Garcia, bonjour, président de l'INRAP.
Oui.
Vous êtes donc le président de l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives. On va voir justement ce que c'est. Vous allez quand même nous rappeler ce que c'est que des recherches préventives. Et puis Christelle Aimonet, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes membre suppléante donc concernée par l'archéologie préventive du conseil d'administration de l'INRAP et vice-présidente de la Chambre régionale d'Île-de-France de l'UNAM. Alors justement, on va peut-être commencer. Alors vous avez bien compris qu'on va faire le lien entre aménagement et fouilles archéologiques préventives. Alors peut-être une petite présentation de l'INRAP, Monsieur le Président.
Merci. Donc l'INRAP, c'est un institut national, un établissement public administratif qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans et dont la mission est de préserver le patrimoine archéologique de la plus ancienne occupation de notre territoire, il y a 1 million d'années, jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, on est opérateurs d'archéologie, on intervient sur le terrain pour sauver le patrimoine dans le cadre d'une loi qui est une loi de 2001 qui met en place ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Donc en 2 secondes, l'archéologie préventive, c'est la volonté de l'État de concilier 2 actions fortes, l'aménagement du territoire et donc la construction nécessaire à tous, et puis la préservation du patrimoine qui, là aussi, est une action nécessaire à tous. Et donc, cette loi vise à tracer un cercle vertueux. Au fur et à mesure que notre pays s'aménage, les archéologues en profitent pour détecter les sites archéologiques, de les fouiller, de les analyser, et ensuite de laisser le terrain libre à l'aménagement. Donc, normalement, dans un cadre idéal, l'archéologie vient en amont, découvre des vestiges archéologiques, les analyse et ensuite le terrain peut être aménagé et donc sans heurte, sans confrontation, on associe 2 actions fortes, préparer le patrimoine de demain en aménageant et puis ensuite en connaître plus sur le patrimoine d'hier.
Alors cette loi, elle a été promulguée en 2001 et elle permet environ 450 fouilles par an, hein, c'est ça ?
Oui, alors c'est 450 fouilles, c'est-à-dire des opérations qui peuvent être d'ampleur, l'emplacement d'un pavillon, mais ça peut être aussi l'endroit où on extrait des matériaux dans une carrière, voire le tracé d'une route. Donc c'est 450 opérations, certaines durent quelques jours, ouais. D'autres servent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon l'ampleur des opérations. Et ces opérations de fouilles suivent ce qu'on appelle des diagnostics, c'est-à-dire des repérages qui, eux, sont beaucoup plus nombreux. C'est 2000 repérages par an qui permettent de savoir s'il y a des vestiges ou s'il n'y en a pas. Et pour résumer, un peu pour montrer que notre action est importante, mais équilibrée, en France, on estime environ qu'il y a 700 km² qui sont aménagés chaque année pour des pavillons, mais également pour des routes, des plateformes logistiques, etc. Sur les 700 km², il y en a environ 20% qui font l'objet de diagnostics, de repérages, et sur ces 20%, il en reste à la fin 5% qui font l'objet de fouilles. Donc il y a 95% des terrains sur lesquels les archéologues n'interviennent pas, et les 5 qui paraissent importants d'un point de vue patrimonial, ils interviennent, et ensuite l'aménageur fait ce qu'il a à faire. Mmh.
François, quel est le lien entre justement les aménageurs et les fouilles préventives archéologiques ?
Donc le lien historique a été réglementaire, hein, puisqu'il y a une loi qui, dans le cas d'un chantier, nous obligeait, en cas de découverte, à le signaler donc à interrompre le chantier, ce qui représentait un risque important. Et donc c'était le cas de toutes ces découvertes dans les années 60, si vous voulez, où on faisait des parkings, des grands aménagements dans les cœurs de ville, parfois où on tombait sur des ruines romaines. Et puis on a eu comme ça des grands chantiers de métro qui ont été interrompus, je pense à Lyon, etc. Enfin, voilà. Oui. Et oui, grâce vrai, oui. À cette loi, on a un processus qui est à la fois prévu. et qui permet aussi de tenir un délai, sauf peut-être découvert très exceptionnel, mais qui permet de tenir un délai, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est bordé en termes de délai. Voilà. Et également en termes de coût, puisque c'est pour nous toujours un problème important. Donc on a une vision de la faisabilité à la fois de l'archéologie et puis de l'opération d'aménagement que nous menons.
Alors vous, Christelle, qui êtes à la fois du côté de l'UNAM et du côté de l'INRAP, même question, comment vous voyez du coup le travail fait entre les archéologues et les aménageurs ?
En fait, c'est surtout un partenariat qu'on a avec eux. On fait en amont un diagnostic préventif, ce qui nous permet d'avancer ou pas sur nos projets et de pouvoir gérer nos opérations beaucoup plus facilement. Oui. Donc, c'est vraiment très important la relation avec eux.
Ouais, de bien énormément. Travailler ensemble, on gagne du temps forcément.
Et c'est très fluide et donc ça nous aide beaucoup.
Alors on va parler des événements climatiques dont on parle beaucoup depuis quelques temps, hein, avec le climat. Vous avez déclaré récemment que les fouilles préventives pourraient nous éclairer face aux effets de ce dérèglement climatique, notamment en nous apprenant à voir comment les populations passées ont répondu aux phénomènes violents comme les tempêtes ou les crues. Alors, comment les fouilles préventives peuvent-elles nous aider à tirer des conclusions ?
Parce que, bon, voilà, bien souvent, dans l'imaginaire collectif, l'archéologie, c'est la ruine, le site comme ça qui est figé. Oui. Dans le paysage. Et nous, ce que l'on analyse, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est les couches archéologiques qui enregistrent toute une histoire. Elles enregistrent les constructions, elles enregistrent les productions, ce que les gens ont fait, mais elles enregistrent aussi les événements passés. C'est-à-dire, lorsqu'on fouille en centre-ville, lorsqu'on fouille en banlieue, on arrive à voir les strates, les couches, qui marquent les moments d'occupation et d'abandon, comment les gens ont réagi aux variations climatiques, comment les gens ont réagi à des moments de crue, parfois avec de la résilience, en disant, tiens, l'eau du fleuve monte, ben ensuite on va réoccuper, et parfois en s'en protégeant. Et donc je pense que l'information archéologique, aujourd'hui, le président Rieussec l'a dit, qui est une obligation légale, peut être aussi un atout pour les aménageurs. Ça nous donne une sorte de catalogue de ce qui a été fait en termes d'aménagement dans le passé. Alors parfois, ça ne donne pas, ce n'est pas le passé qui nous dicte l'avenir. C'est le passé qui enregistre des manières de faire et qui peut permettre de dire, tiens, là, ça a été la bonne solution ou là, ça a été la mauvaise solution. Et donc, l'archéologie peut nous donner comme ça une sorte de catalogue. Ça va à la fois des paysages. Aujourd'hui, il y a une petite tension entre l'aménagement et l'environnement. Or, ce que nous dit l'archéologie, c'est que l'environnement est un élément qui est construit. C'est-à-dire nos paysages aujourd'hui n'ont rien de naturel. Partout, d'ailleurs, où on oblige à réaliser une fouille archéologique pour construire un pavillon, c'est bien parce qu'auparavant, il y avait de l'habitat préhistorique, antique ou médiéval, et que donc ce terrain n'a rien de naturel, vu qu'avant, il y avait des populations qui l'occupaient. Donc, vous voyez, l'opposition aujourd'hui entre aménagement et artificialisation est, par définition, une tension volontaire, politique, mais n'a rien d'une réalité vraie. Aujourd'hui, si on impose une fouille pour construire un lotissement, c'est bien parce qu'avant, il y avait un lotissement et que ce terrain n'était pas naturel en tant que tel. Et qu'inversement, il faut être modeste, nos aménagements aujourd'hui, demain peut-être, laisseront de la place à des aménagements naturels. Donc ça, c'est le premier point à avoir en tête. Ensuite, dans le catalogue de ce que retrouvent les archéologues, il peut y avoir des informations sur les manières de bâtir. Voilà, aujourd'hui, on a tendance à dire, ben voilà, la maison en béton ou en brique, elle peut avoir telle vertu ou telle autre. Pas de souci, la mienne est construite comme ça. Mais on sait que, mettons, depuis 6000 ans, on construit en terre. Et que ces constructions en terre ont eu également des vertus et ont eu des faiblesses. Et les archéologues aujourd'hui, avec le peu, eux ne savent pas dire l'avenir, mais ils sont capables de décrire le passé. Et donc, ça peut être des éléments qui peuvent être utiles. Voire même en termes de communication vis-à-vis de futurs clients. J'avance là sur un domaine que je connais peu, mais je me suis retrouvé, moi, en tant qu'achetant une maison, quelque part en France et plutôt donc dans le sud, comme ça se sent, où l'agent immobilier me proposait soit une belle maison ancienne construite en terre, soit une maison en pierre. Et je savais, moi, que c'était intéressant la terre, mais j'ai quand même choisi la pierre. Ça montre que même l'archéologue, dans sa tête, a certaines réticences. Et donc aujourd'hui, quand on vante les matériaux locaux, la terre, le bois, etc., il y a peut-être de la pédagogie à remettre en avant. On est une génération du tout béton. Peut-être qu'il faudrait de nouveau montrer les vertus de ces matériaux locaux, leur intérêt et leur faiblesse aussi, pour que demain, les missions qui sont de construire différemment soient plus acceptées, y compris par le consommateur. Voilà, c'est quelques petits exemples. L'archéologie, c'est le passé. C'est là ce qu'on sait de faire de mieux. Mais c'est également une documentation, une réflexion qui, de temps en temps, à mon avis, peut être utile aux aménageurs, aux citoyens. Et donc, voilà ce que j'appelais tout à l'heure le cercle vertueux. Vu qu'il y a obligation de réaliser des fouilles, moi je défends ce cadre-là, mais autant que tout le monde puisse en tirer profit et qu'on puisse dire, ben voilà, on aménage parce que c'est nécessaire, ça c'est toujours fait. On est capable de faire ça de manière durable et on est capable de retirer les informations du passé.
François, je vous ai vu acquiescer. Oui. Vous êtes d'accord avec ces propos ?
Oui, tout à fait. Ce qui est important, effectivement, c'est ce que m'avait dit l'un de vos archéologues, c'est que 80% du territoire national peut être sujet à des découvertes. C'est-à-dire que tout notre territoire a été anthropisé, puisque c'est le mot un petit peu convenu maintenant. Et donc nous vivons dans un pays où tout le territoire a été travaillé par l'homme et a laissé les traces. Et donc la vision que nous avons actuellement d'une dualité entre, d'une part, ce qui est la nature qu'il ne faudrait pas toucher, et puis la ville, l'urbain qui mange la nature, est une vision absolument fausse. C'est ce que nous renseigne l'archéologie. C'est-à-dire c'est tout notre pays est le fruit de notre action et de nos ancêtres. Et prédécesseurs. Et puis, ce que dit aussi le président Garcia est important, c'est que toutes ces découvertes, maintenant, à l'occasion de chaque chantier, nous avons développé un partenariat qui permet de les mettre en valeur, de les donner à nos acquéreurs, aux futurs habitants, à la collectivité. Alors, ce n'est pas toujours des expositions, etc. C'est plutôt du renseignement sur l'occupation du territoire. Et donc, nous rédigeons des fascicules et une sensibilisation auprès des écoles des centres culturels de nos collectivités. Voilà, ça c'est vraiment aussi, je dirais, le nouveau chantier que notre partenariat développe et va développer de plus en plus. C'est cette mise à disposition du grand public de ces découvertes.
Mais c'est vrai que c'est important de faire peut-être plus de pédagogie, plus de communication, parce qu'au final, vous l'avez bien mentionné, hein, beaucoup de Français ne le savent pas et sont un peu dans l'erreur, ou en tout cas, ils ne connaissent pas vraiment les...
Et puis, ces nouveaux espaces qui sont aménagés devront être aussi habités, en sens strict du terme. Et donc, de laisser des traces, de créer des repères, même virtuel, hein, aujourd'hui, voilà, la construction de nouveaux lotissements, raconter l'histoire de cet espace dans lequel viendront seront occupés par une nouvelle population est important. C'est-à-dire, les gens vont inscrire l'achat, leur vie au quotidien dans une histoire plus ancienne, et je pense que ça peut permettre de faire société, ça a du sens. Et dernier point sur ce que rappelait le président Rieussec sur l'anthropisation de notre territoire. Aujourd'hui, on prône, et c'est important, la ville sur la ville, etc. Mais il faut voir que dans l'histoire de l'humanité à l'échelle de notre pays, où la sédentarisation existe depuis 10 000 ans, la ville a tout juste 4000 ans, au grand maximum, et la population urbaine, aujourd'hui, est majoritaire que depuis 30 ans. C'est-à-dire, depuis que l'homme est l'homme, il n'y a que depuis 30 ans, où on estime que le mode de vie principal et majoritaire devait être la ville. Alors que toutes les expériences anciennes ont montré que l'habitat dispersé était le mode de vie le plus durable au sens strict du terme.
Donc quand vous dites dispersé, c'est vraiment...
Non, c'est-à-dire il y avait une organisation en société, mais pas forcément des systèmes d'immeubles, des systèmes d'agglomération au sens strict du terme, c'est-à-dire avec des murs mitoyens.
C'était moins dense.
C'est, voilà, c'était des maisons qui n'avaient pas de murs mitoyens. D'accord. Et donc ça, c'est le mode de vie majoritaire. Et là aussi, on a presque tendance à l'oublier, jusqu'à encore il y a 30 ans. Et ça, l'archéologie peut montrer des modèles. Et ça peut être intéressant. Le rapport ville-campagne et le rapport ville-espace d'habitat dispersé est quelque chose qui a été quelque chose de majoritaire et dans lequel l'humanité a fonctionné. Presque aujourd'hui, l'expérience urbaine et la ville sur la ville est presque un cas d'une expérience pour laquelle on n'a pas de retour.
Ah oui.
Ce qu'on fait aujourd'hui et sur lequel on ne pousse pas est une première sur laquelle on n'a pas de retour.
Là, vous parliez des découvertes hein, lors de vos recherches. Est-ce que les recherches ont évolué ? Je parle notamment de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous l'utilisez, désormais ? Est-ce qu'il y a eu des avancées ? On s'était vu l'année dernière, depuis un an, par exemple.
Alors, il faut être honnête, le regard de l'expert, et c'est la même chose dans la construction, j'imagine, l'humain a encore cette qualité de pouvoir faire les choix, oui. De pouvoir prendre les risques. J'imagine que c'est la même chose d'un point de vue de l'architecte, du bâtisseur, du commercial. À un moment donné, il y a un choix à faire et le choix, c'est la prise de risque. Et là, les process automatiques, l'intelligence artificielle, elle ne prend pas de risque. Elle traite l'information. Mais ça, aujourd'hui, nous, sur les échelles auxquelles nous travaillons, on utilise de plus en plus de moyens. Voilà, le LIDAR, le système de radar aéroporté, on commence à l'utiliser. La géophysique aussi, ça permet de rapidement balayer un espace beaucoup plus important, voire un espace aujourd'hui avec des forêts ou des champs, etc., de récupérer les micro-reliefs. Donc ça nous permet d'intervenir de manière plus rapide, de prendre des orientations. Mais ensuite, en dernier lieu, c'est l'action de l'homme et de la femme et l'outil qui permet de faire les bons choix et de trier l'information. Il n'y aura jamais une exploration totale, imaginaire, à travers les murs, à travers les sols, mais on aura l'archéologue, juste pour conclure sur cet aspect-là, l'archéologue n'a pas d'outils spécifiques, d'outils dédiés, comme on dit aujourd'hui. L'archéologue utilise oui. l'ensemble des outils à sa disposition, et aujourd'hui, bien entendu, que ce soit les méthodes de prospection, les périodes de relevé, j'en parlais tout à l'heure avec le président Riossec, voilà, jeune archéologue, la première chose qu'on faisait, c'est d'utiliser un théodolite ou une alidade pour faire les relevés. Un bon archéologue était quelqu'un qui était capable de relever ce qu'il trouvait. Aujourd'hui, on a des drones qui passent et on fait les relevés automatiques et on fait un scan 3D et c'est bien mieux que ce que je faisais naguère.
Voilà. Christelle, justement, vous qui êtes vice-présidente de la Chambre régionale d'Île-de-France, de l'UNAM, un petit mot sur les fouilles préventives en Île-de-France, les dernières, on va dire.
Alors, moi, je suis plus dans le sud de l'Île-de-France, donc le nord, je n'ai pas beaucoup de retours, mais on m'appelle quand il y a un problème en général, mais là, je n'ai pas de retour dans le nord, donc a priori, tout se passe bien. Dans le sud, on a eu pas mal de fouilles, enfin de diagnostics demandés par eux. Et en fait, on a des diagnostics qui vont assez vite. Moi, j'en ai eu un où j'ai eu une fouille demandée complémentaire. Et je vais
par
revenir.
Par qui ? Les aménageurs, oui.
Non,
par les archéologues.
Par les archéologues. Et je vais revenir un petit peu à ce qui a été dit en amont. C'est-à-dire que ça a permis au village, parce que c'est un petit village, de remonter dans le temps et de voir en fait que le projet que nous on va faire, on revient sur un lotissement, on va dire, d'époque romaine et on revient se réinstaller là où il y avait déjà des habitants.
Donc ça a influencé l'aménagement actuel ?
Alors ça a influencé parce que ça s'est arrêté, parce que les fouilles sont intervenues, mais ça a permis aussi de ressortir toute l'histoire jusqu'à l'époque
du village
et même avant. Et donc la mairie était contente de pouvoir. On a donné le diagnostic à la commune qui l'a transmis à l'école et donc l'école primaire et secondaire sont venues pendant les fouilles pour voir. Donc si vous voulez, il y a tout un lien qui s'est fait à travers nous et qui a fait découvrir ce métier d'archéologie à des petits. Et donc il y avait des silex, il y avait beaucoup de choses hyper... Que les enfants pouvaient toucher et qu'ils ont vu d'un seul coup l'histoire en vrai, on va dire. Et donc ça aussi, c'est important, même si je fais de l'aménagement, mais ça aussi, c'est important de le signaler.
Donc ce lien entre les populations présentes et les populations passées.
Et ça rejoint, en fait, on reconstruit là où on a déjà construit. En fait, on nous empêche en ce moment pas mal de choses, mais en fait, on ne fait que rebâtir là où on a déjà bâti. Et on n'abîme pas parce que c'était déjà là. En fait, en creusant à un mètre, on avait retrouvé les fondations des maisons, on avait retrouvé des routes, on a retrouvé beaucoup de choses. Et donc, on fait que remettre quelque chose qui était déjà existant il y a plus de 2000 ans.
C'est avec l'émotion, quand on doit faire ce genre de découverte, doit être assez, assez forte.
Comme je dis, j'avais une expression, j'avais jamais vu un homme aussi heureux dans une tranchée. Plus il creusait, plus il voyait des choses. Et moi, par contre, je n'étais pas très à l'aise parce que je me disais, ça va être très compliqué pour moi, pour mon chantier. Mais à chaque fois que je venais le voir, à chaque fois, il avait un sourire jusqu'à là.
Parce que vous me disiez, plus on trouve de choses, plus ça va repousser
l'opération. Plus ça va être compliqué pour moi.
Bien sûr.
Voilà. C'est le propre de l'homme. Voilà. Ouais. D'avoir des émotions quand il fouille dans une tranchée. Et d'autres ont des émotions quand il coule du béton dans une tranchée. Ça peut surprendre aussi. Mais en tout cas, les deux, celui qui a de l'émotion quand il fouille et celui qui a des émotions quand il coule du béton dans la tranchée, les deux habitent dans une maison. Et donc, ils regardent par la même fenêtre des paysages. Voilà, donc c'est ça. On se rejoint à un moment donné.
Oui, complètement, oui.
Alors, un travail de synthèse a été rendu récemment, l'Atlas archéologique de la France, l'année dernière. C'est une mise en carte inédite de 35 000 sites archéologiques. Qu'est-ce qu'a permis, justement, ce travail de synthèse ? Qu'a-t-on appris avec ce travail ?
Alors, sur ce travail, effectivement, ce livre qu'on a publié l'an passé, on a voulu remettre au jour les vestiges et les diffuser au plus grand nombre. Et là aussi, à la fois pour justifier nos interventions, mais également partager la connaissance. Parce qu'il y a un petit peu ce paradoxe. On dit que l'archéologue est quelqu'un qui lit un livre et qui arrache les pages du livre qu'il est en train de lire. C'est-à-dire, quand il fouille une couche archéologique, il est heureux, comme le disait madame tout à l'heure, mais ensuite, une fois qu'il l'a fouillé, la couche, elle n'y est plus. Et donc, quand il a terminé la fouille, le site archéologique, il a disparu. Et donc, il y a cette émotion, et cette émotion, il est important de la partager. Et autre élément aussi, c'est que qui peut surprendre un aménageur, un citoyen, un élu, c'est que parfois, on fouille des fois sur 100 mètres carrés, on dit, c'est quoi cette histoire, à quoi ça sert d'analyser le territoire sur 100 mètres carrés. Mais nous, on a voulu montrer que 100 mètres carrés plus 100 mètres carrés plus un hectare, c'était autant de pièces d'un puzzle. Et à un moment donné, on pouvait rassembler les pièces d'un puzzle et donner une image. Et l'Atlas, dont en 100 cartes inédites, raconte l'histoire de notre pays en rassemblant toutes ces images de fouilles et en disant, vous voyez, localement, on a trouvé ça au fond de la tranchée. Et l'émotion, elle n'était pas idiote, vu que toutes ces tranchées, ça donne une image de l'histoire dans notre pays. Et donc, c'est ça, l'Atlas qu'on a publié, pour redonner à voir tous ces vestiges qu'on a fouillés et montrer que ce n'était pas une vision uniquement des choses passées, mais un outil de réflexion et un outil de décision sur la manière dont les populations anciennes avaient transformé les paysages, avaient occupé l'espace, avaient parfois fait des choix dans les matériaux, dans les modes de vie, tout ce qu'on rappelait tout à l'heure.
Alors là, je vais à nouveau faire le lien avec les préoccupations environnementales actuelles. Comment vous avez pu retracer justement les interactions entre les humains et le milieu sur des millions d'années ? Alors, il y a eu des zones blanches, vous avez identifié des zones blanches. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors,
l'archéologie, bien souvent, là aussi, dans l'imaginaire collectif, c'est les temples, les églises, les châteaux. Et effectivement, l'INRAP, on a fouillé à Villers-Cotterêts, on fouille actuellement à Notre-Dame, donc des choses bien visibles dans le paysage. Mais l'archéologue, aujourd'hui, quand il fouille, il récupère aussi les charbons de bois anciens, les ossements d'animaux, les pollens qui sont dans les sédiments. Quand on fouille dans cette tranchée, il y a de la terre. Dans cette terre, il y a des pollens et des pollens qui sont anciens. Et ces pollens nous donnent les espèces végétales anciennes. Et grâce donc à l'analyse des différentes espèces végétales qui sont trouvées à une période, on arrive à reconstituer les paysages, donc les climats. Et donc, on établit des courbes sur l'évolution des climats grâce à la végétation, grâce aux animaux. Et donc, on peut voir justement l'action de l'homme sur le milieu et l'adaptation de l'homme aux variations climatiques. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, voilà, on parlait d'aménagement et de fouilles. Les fameuses zones blanches, c'est les endroits aujourd'hui où il y a des actions fortes du climat liées à la présence de l'homme sur Terre qui modifient les paysages et sur lesquelles les archéologues ne sont pas assez nombreux et devraient être un peu plus présents. Les hommes de montagne, aujourd'hui, les glaciers fondent, libèrent des vestiges archéologiques. Et là, comme il n'y a pas de fait générateur, il n'y a pas un aménageur qui construit dans les glaciers, ben, les archéologues n'y vont pas, alors qu'il y a des vestiges importants. Pareil, en bordure du littoral, des tempêtes importantes, où on a parlé de crues importantes, l'endroit dans le cours majeur d'un fleuve aujourd'hui, quand il y a des crues, il y a destruction de vestiges archéologiques. Et là, on n'impose pas une fouille, vu qu'il n'y a personne pour financer derrière. Et donc là, il y aurait peut-être une réflexion à mener de savoir si l'État pourrait pas essayer d'un petit peu équilibrer, dire voilà, faire deux colonnes, tout ce qu'on connaît grâce à l'aménagement du territoire et tout ce qu'on ne connaît pas, sur lequel on devrait être un peu plus présent et avoir une vision un peu plus complète.
Je croyais que vous vouliez qu'on construise plus. C'est une boutade.
Moi, je vous rassure, j'habite dans une maison et ça ne me dérange pas quand on construit. Et justement, le but, c'est de trouver, et on le fait tous ensemble au quotidien, de trouver un équilibre. C'est le fameux cercle vertueux. Voilà, faire société, c'est un mot qui est à la mode. Mais je crois que c'est important de dire, ben voilà, aménager, c'est pas détruire. Et fouiller, c'est pas freiner l'aménagement. Ensemble, on habite le même espace. Le comprendre, l'entendre, s'entendre et échanger me paraît important, tout en étant conscient chacun des contraintes. Moi, archéologue, je ne demande pas qu'on détruise un site archéologique. Et l'aménageur, lui, a d'autres soucis que de financer des fouilles archéologiques. Mais comme on est ensemble, comme on est dans la même société, on doit pouvoir trouver des éléments d'équilibre. Et c'est des éléments sur lesquels on œuvre. Et moi, très sincèrement, hors micro, remercier très sincèrement l'UNAM pour le dialogue. Voilà, madame siège à notre conseil d'administration. Elle ne vante pas l'archéologie. Elle représente l'Union nationale des aménageurs et ses intérêts. Et en revanche, une fois que les intérêts des aménageurs sont présentés, l'archéologue lui dit ce qu'il peut apporter et on arrive à trouver un équilibre et si on se fâche on sait se réconcilier rapidement et ça c'est important.
Et justement voilà. Alors, vous voulez rajouter quelque
chose ? Juste un petit mot pour rebondir sur ce que vient de raconter le président Garcia sur cette façon dont l'humanité et nos prédécesseurs se sont adaptés à travers toutes sortes de constructions qui se sont succédées. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette étape où l'aménagement permet et met en œuvre de nouvelles techniques aussi pour reverdir, pour l'adaptation climatique, avec toutes les technologies qui sont présentes, notamment sur ce salon, et plus encore. Donc, c'est intéressant de montrer qu'il y a une filiation entre cette façon de résoudre aujourd'hui nos problèmes, qui sont aussi climatiques et dont nos prédécesseurs, nos ancêtres se sont adaptés. Enfin, je trouve que c'est très riche comme filiation.
Et justement, alors on parle de bouleversements climatiques. Certains ne sont pas dus à l'homme. C'est ce que vous constatez aussi lors de vos recherches, puisqu'il y en a eu bien avant. Et pour vous, c'est pas assez. Voilà, ça échappe un petit peu aux procédures
oui,
d'instruction.
L'histoire est quelque chose d'un peu complexe. C'est des variations climatiques. Il y en a qui sont strictement naturelles. Je suis pas compétent pour en donner le processus, mais il y a des variations naturelles. Et puis justement, à partir de cette variation naturelle, on arrive aussi à mesurer l'impact de l'homme qui vient se rajouter et qui peut poser des éléments catastrophiques qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, et ça peut toucher, on en parle, c'était récemment dans l'actualité, les problèmes d'inondation. Oui. C'est des choses qui sont importantes. On voit comment l'homme s'est défendu, mais comment aussi parfois cette notion de résilience qu'on a un peu oubliée, vivre avec la nature et savoir accepter parfois que l'eau monte, peut avoir du sens aujourd'hui. On aimerait avoir une garantie sur tout, et la garantie sur tout n'a jamais existé et n'existera pas demain. Voilà.
L'homme ne peut pas prendre le dessus sur la nature.
Pas forcément, c'est une banalité, mais en tout cas, le réinscrire et le redire, à un moment où on bouge tous, où on inscrit notre histoire dans des territoires différents, c'est important chaque fois de rappeler les fondamentaux et redonner des repères aux gens, aux endroits où ils vivent, aux endroits où ils aménagent.
Est-ce que, Christelle, justement, parfois, ça rappelle les fondamentaux, les découvertes qu'on peut faire sur un site, par exemple ? Est-ce que...
Par exemple, je vais revenir sur le cas concret. Les archéologues ont découvert sur ce site qu'il y avait une gestion de l'eau, parce que le terrain était en pente. Et donc, il y avait toute une gestion de l'eau qui avait été faite parce qu'il y avait une forêt en amont, etc. Et nous, en fait, on n'a fait que répéter ce qui avait été créé avant via nos noues, pour gérer l'eau, parce que comme il pleut de plus en plus et on a des normes qui nous imposent aussi une gestion de l'eau de plus en plus drastique. Et en fait, on ne fait que répéter ce qui avait été déjà fait, mais avec un peu plus de modernité et puis de contraintes. Mais on est obligé aussi, nous, dans l'aménagement, de faire attention à notre environnement, de faire des diversités dans les plantations. On est obligé aussi de s'adapter énormément par rapport à notre environnement, c'est sûr.
Alors, c'est le moment de signer une convention, la convention de partenariat national entre l'UNAM et l'INRAP. Alors, je vais vous l'apporter et vous allez chacun la signer. Hop, il y a deux exemplaires.
Écoutez, merci. C'est...
Hop. Vous avez des stylos, oui. Oui, un post-it pour avoir la bonne page. Voilà, moment immortalisé, moment historique sur le plateau de l'UNAM. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Christelle. Ah oui, il en manque une. Super. Ah ben, oui, vous avez raison. Merci beaucoup, merci pour cette table ronde passionnante et on se retrouve dans quelques instants pour la renaturation, la compensation pour des opérations d'aménagement à biodiversité positive.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.